Bon. Alors passons au chapitre Yud Gimel. Chapitre Yud Gimel. Ce qui est le 13e, selon le compte hébraïque. Chapitre Yud Gimel, vous avez trouvé? Bon, c'est très très bien. Vayar l'Avram et Mitzraïm. Avram montit d'Égypte. Donc il fait sa sortie d'Égypte. Où, lui, Veishto, et sa femme. Vecholacherlo, et tout ce qu'il possédait. Il possédait beaucoup, puisque le pharaon lui avait donné plein. Velot Aimo, et Lot avec lui. Hanegba, vers le sud, vers le Negev. Ça, c'est surprenant. Comment se fait-il que Lot est avec lui? On ne savait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la Torah nous avait dit que Lot avait accompagné Avraham jusqu'à Shrem. Après, nous voyons Avraham quitter Shrem pour se rendre entre Bethel et Ahai, après avoir abandonné ses accompagnateurs. Et puis, il descend en Égypte. On ne dit pas un mot de Lot. Mais, on apprend brusquement que Lot est avec lui. C'est-à-dire qu'en sortant d'Égypte, on ne sort pas seul. On est accompagné. Ça vous rappelle quelque chose? Lors de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ne sont pas sortis seuls. Ils sont sortis accompagnés. Le Erevrav. Il y a donc toujours, dans l'événement de la libération d'Israël, il y a une représentation de l'humanité. L'humanité envoie ses délégués. C'est-à-dire que c'est vrai que la sortie d'Égypte aurait dû être la sortie du monde entier. Ça n'a pas marché, mais il y a quand même quelques représentants qui participent, qui représentent la couche intermédiaire entre Israël et les nations, et qui sont nécessaires pour créer le messianisme. En effet, c'est de Lot que va sortir la lignée messianique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fécondation d'Israël par les nations du monde, et c'est représenté ici par un personnage qui est un peu de la famille d'Abraham, mais qui n'est pas sa descendance, c'est Lot. Tu vois ? Lot, c'est le fils de Haran, frère d'Avram. C'est donc le neveu d'Avram. Hein? Oui? Oui, alors? Quoi? Et alors? Mais la fille, c'était une fille à lui. C'est pas la même chose. Non. Non, non. Donc, Lot vient avec lui, on va voir que ça a des conséquences extrêmement importantes. Ve Avram kaved meod bamikne bakesef vozahav. Or, Avram était très lourd de bétail, d'argent et d'or. En sortant d'Égypte, donc, on amène également les valeurs. Nous amenons de l'Égypte beaucoup de choses. Et ça fait partie donc du travail de ceux qui sortent d'Égypte de faire le tri des valeurs. Quoi? Oui, c'est-à-dire tout ce qui s'associe. C'est-à-dire, nous tirons des civilisations parmi lesquelles nous faisons notre parcours, nous ramassons quelque chose. Par exemple, de nos jours, lors de la sortie d'Europe, que nous vivons aujourd'hui encore, nous amenons des valeurs de l'Europe. Par exemple, le régime démocratique. La question que je pose, est-ce que le régime démocratique, c'est un bien ou un mal? Hein? C'est ce que j'ai dit? Ah bon, tu dis que quand quelque chose est, la question ne se pose pas. Par exemple, c'est pas ça. Ma question n'est pas est-ce qu'on va la renverser ou pas. Le problème est de savoir est-ce que c'est bien ou mal. C'est bien. Toujours. Et des risques. Ça veut donc dire que dans le régime démocratique, il y a un mélange de bien et de mal. Qu'est-ce qui en restera dans l'histoire? Il en restera ceux qu'Israël en gardera. C'est-à-dire que nous sommes une sorte de laboratoire, nous sommes des cobayes dans une expérience divine à l'échelle de l'histoire et qui fait que nous gardons avec nous les étincelles de sainteté, des substantifiques moelles de vitalité qui se trouvent dans les différentes civilisations. D'accord ? Par exemple, l'or que nous avons sorti d'Égypte, à quoi il a servi? Au Mishkan. Mais il a servi également au veau d'or. C'est-à-dire que nous faisons un tri entre l'or du veau et l'or du Mishkan. C'est pas le même, pas du tout. L'or du veau a été brûlé. L'or du Mishkan a été gardé. D'accord? Bon. La Torah nous dit ici, Vegam les lots. Non, pardon. Va yelech les massav. Il revint sur ses stations. Minegev ad Bethel, depuis le sud jusqu'à Bethel. Adamakom asher yasham aolo batechila, jusqu'à l'endroit où se trouvait sa tente au début. Ben Bethel ou Ben Haï, entre Bethel et Haï. El mekom amisbeach asher asasham barishona vaikra Avram b'shem Hashem, jusqu'à l'emplacement de l'autel qu'il avait fait en premier, et Avram invoqua là-bas le nom de Dieu. De quoi deux? Enoch. Oui, alors on avait vu qu'il y avait eu un problème entre commencer à invoquer et invoquer. C'est quand on commence une invocation, c'est qu'on commence à en finir, c'est l'origine de l'idolâtrie. Mais j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que la Torah insiste pour nous dire l'emplacement exact où Avraham était revenu. Vous vous rappelez, cet emplacement se trouve entre Bethel et Haï. Qu'est-ce qu'il y a entre Bethel et Haï, si vous vous souvenez? Non. Entre Bethel et Haï, il y a une montagne. N'est-ce pas? Une montagne, qu'on appelle aujourd'hui Har Baal Hatzor. Et cette montagne, c'est la plus haute montagne de la région, de la Samarie. Elle est tellement haute, cette montagne, qu'on peut voir très loin de là-bas. Si on regarde vers l'ouest, on voit de là-bas la Méditerranée par temps clair. Si on regarde vers l'est, on voit le désert d'Arabie au-delà de la Jordanie par temps clair. Et quand on regarde vers le nord, on voit là-bas le mont Hermon par temps clair. Et si on regarde vers le sud, on voit le plateau du Negev par temps clair. Ça veut dire que quand Avraham met là-bas son hôtel, d'une certaine manière, c'est comme une tour d'observation du propriétaire. C'est de là-bas qu'il peut observer le pays que Dieu lui donne. Donc Avraham revient là-bas. Le fait que ce soit là-bas, dans un endroit de ce genre, ça va être signifiant, mais on va le comprendre seulement par la suite. D'accord ? Donc nous allons devoir nous armer de patience. Verset He. Vegam le Lot, Haolech et Avram, et Lot aussi, lui qui marchait avec Avram, Hayatson uvakar veohalim, lui aussi avait du petit bétail et du gros bétail et des tentes. Ah. Où est-ce qu'il sort tout ça? Comment se fait-il que Lot aussi soit devenu riche? Avraham, on comprend, comment est-ce qu'il est devenu riche? Parce qu'il passait pour le frère de Sarah, n'est-ce pas? Comme il passe pour le frère de Sarah, le pharaon lui donne plein de richesses. Mais Lot, il est vraiment le frère de Sarah. Donc lui aussi recevait. C'est-à-dire, quand on demandait à Sarah, c'est qui celui-là qui est avec toi? Ben, c'est mon frère. Et celui-là, ben, c'est mon frère aussi. Donc, les deux ont reçu des richesses. Donc Lot aussi profite de la descente d'Abraham et Sarah en Égypte. Maintenant, pour avoir des troupeaux, des tentes, des richesses, il faut des gens qui s'en occupent. Ça veut dire qu'il a avec lui un groupe humain, il y a des hommes qui sont associés à Abraham et des hommes qui sont associés à Lot. Ça crée donc des populations. Vous vous rappelez que c'est pas la première fois qu'Abraham se trimballe avec des gens. On avait vu ça quand il était venu de Haran. Il avait avec lui toute une population, et puis Dieu lui a fait une petite allusion qui fait qu'il les a laissés à Shrem. Là, il ressort d'Égypte, il a à nouveau des gens avec lui. Est-ce qu'il doit les rejeter ou est-ce qu'il doit les associer? La question se pose, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'Abraham se dit peut-être que ce que j'ai amené de Haran, c'est à cause de la nature, de la civilisation, de la Mésopotamie que Dieu ne les veut pas. Mais peut-être que les Égyptiens, Dieu les veut. J'en sais rien pour l'instant. Comment le savoir? On ne sait pas encore. On va voir ce qui va se passer. Vayiriv. Non, Velo Nasa Otam Aaret Hashevet Yardav. Et le sol ne suffisait plus pour leur installation ensemble. Kiaya Rechusham Rav. car leur richesse était abondante. Velo Yachelou, la Chevet Yardav, ils ne pouvaient pas résider ensemble. Quand vous avez des troupeaux, il faut des pâturages. Les pâturages, il y a des Cananéens. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place, on va commencer à se disputer. Vaïriv, il y eut une dispute. Ben Roé Mikne Avram ou Ben Roé Mikne Lot. Entre les bergers du bétail d'Avram ou Ben Roé Mikne Lot et les bergers du bétail de Lot. Vakenaani va périser à Zechebaretz. Le Cananéen et le Périséen étaient installés à l'époque sur la terre. Quel rapport? Ça veut donc dire qu'il y a un rapport entre la présence des Cananéens et des Périséens et le problème qui oppose les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Quel rapport? Avram est censé être celui qui donne à sa descendance le pays de Canaan, qui Dieu a donné à sa descendance le pays de Canaan. Ça, vous le savez. Il est évident que Lot et ses bergers le savaient aussi. Le problème, c'est qu'Avram n'a pas de descendance. Donc l'héritier présomptif, c'est Lot. Donc il y a une dispute au niveau du territoire qui est en rapport avec l'héritage d'Abraham. N'est-ce pas? Alors maintenant, si on essaie de faire un petit résumé de ce qu'on voit là, il y a ici en fait deux populations qui ont entre elles des liens de parenté et qui toutes les deux reconnaissent le Dieu d'Abraham et qui veulent le même territoire. Comment? C'est ce qui se passe. Donc il y a donc ici deux populations qui sont en famille, qui toutes les deux adorent le Dieu d'Abraham et qui veulent la même terre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Intéressant de savoir quand même. C'est parce qu'un cas pareil peut se reproduire dans l'histoire. Éventuellement. C'est pas qu'il y ait deux populations monothéistes en parenté et qui veulent le même territoire. On se demande si ça ne s'est pas produit une fois. Peut-être, j'en sais rien. Vous connaissez peut-être l'histoire moderne, moi je connais l'histoire ancienne, parce que je connais la Torah. Et donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors quand il y a un conflit, il y a plusieurs solutions en fait. La première solution, c'est la guerre. La deuxième solution, c'est la justice. C'est-à-dire, aller au tribunal, et le tribunal décide qui a raison. Celui qui a raison gagne, celui qui a tort perd. Troisième possibilité, l'accord. C'est-à-dire, on va faire un compromis, mais on va se mettre d'accord. D'accord. Ce sont les trois possibilités. La guerre, la justice et le compromis. Il semblerait qu'Abraham n'est pas intéressé par la guerre, qu'on va voir par la suite. Il va le dire. Mais comment va-t-il régler le conflit? Soit avec l'accord, soit avec la justice. Alors, essayons de voir ce que dit. Regardez la page, mais faites un petit saut. Du côté du chapitre 18, chapitre Yutret, verset Yutret. C'est facile, Chai Chai. Chapitre Yutret, verset Yutret. Gardez la page quand même, mais chapitre Yutret, verset Yutret. Là-bas, c'est Dieu qui parle et qui dit ceci. Ve'Avraham ayo yé legoy gadol ve'atsum. Avraham deviendra une nation grande et puissante. Ve'nivrechubo kol goy haaretz. Par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ki yeda ativ, car je l'ai connu. Lema anasher yetzave et banav et beto acharav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui. Ve'shameru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. La asot tzedaka ou mishpat, afin d'accomplir la charité et la justice. Donc on voit que le projet moral d'Abraham, c'est l'unité de la justice et de la charité. Le projet que Dieu donne à Abraham, c'est de faire l'unité entre la justice et la charité. Et un petit problème, c'est que la justice et la charité, c'est exactement des contraires. La Guémara dit à propos du verset du roi David, dans lequel il est dit que le roi David faisait justice et charité pour tout son peuple. La Guémara dit, mais enfin, comment est-ce possible? S'il y a justice, il n'y a pas de charité. S'il y a charité, il n'y a pas de justice.
On a vu qu'on demande ça dans la prière.
Dans la prière. Melech Ohe, Sedaka ou Mishpat. Un Dieu qui aime justice, charité et justice. À nouveau, on sait que Dieu, lui, est capable de faire l'unité. comme dit Enrico Macias, Ose Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans ses hauteurs. Lui, il sait faire. Oui, Ose Shalom Aleinu, il va la faire, il va faire la paix sur nous aussi. Cette phrase d'Enrico Macias qui est tirée de la prière est une phrase pessimiste. Ça veut dire qu'il n'y a que celui qui sait faire la paix dans ses hauteurs qui fera la paix sur nous. Ça veut dire que chez nous, ce n'est pas naturel, la paix. D'accord ? Et tout le monde chante ça avec joie. Incroyable. C'est une lamentation, en vérité. « V'alkol Israël, v'imro amen. » Je vous aime. Et donc il y a ici un problème. La Guémara dit, comment est-ce que David pouvait faire à la fois justice et charité ? La Guémara donne trois réponses. Une des trois réponses, c'est que quand David jugeait, il condamnait, par exemple, le coupable, il dit, voilà, il faut que tu payes. Ça s'appelle la justice. Mais comment est-ce que je vais payer ? Alors, David sortait de sa poche, il disait, voilà, avec ça tu vas payer. Il faisait donc tzedaka. Très joli. Ça veut donc dire que, mais il y a un petit problème, c'est pas simultané. Au moment où David fait la justice, c'est la justice. Au moment où il fait la charité, c'est la charité. Il n'y a pas véritablement d'unité entre les deux. Deuxième interprétation de la Guémara, non, il faisait un compromis. Un compromis, c'est à la fois justice et charité. Pourquoi ? Parce que c'est de la charité, puisque ce n'est pas vraiment la justice. D'un autre côté, c'est comme la justice, puisque ça vient du tribunal. Donc il faisait justice et charité. Le problème de cette réponse, c'est que ce n'est pas vraiment de la justice, c'est que ce n'est pas vraiment de la charité. Ni l'un ni l'autre, en vérité. C'est du tiède. Troisième interprétation donnée par la Guémara, David faisait la justice, il disait au condamné, tu es coupable, tu dois payer. Et il payait. Et la personne condamnée disait, avait le sentiment qu'on lui avait fait un acte de charité parce qu'on l'a sauvé du vol. Mais ça demande un niveau moral qui représente une société extrêmement soucieuse de moralité. Je suis sauvé du vol quand on me condamne, donc c'est de la charité. Donc la justice, c'est la charité. Ce que ça veut dire en tout cas, c'est que l'enjeu moral de l'unité des valeurs est un enjeu extrêmement important, mais pas si simple à accomplir. Qu'est-ce qu'on fait pour réaliser ça ? Ben, c'est très simple. Imaginez par exemple que moi j'ai une tendance naturelle à la charité, je vais devoir faire la justice. Si j'ai une tendance naturelle à la justice, je vais m'entraîner à faire la charité. Quelle est la tendance naturelle d'Abraham ? La charité ou la justice ?
La charité.
La charité. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? La justice. Qu'est-ce qu'il doit faire ? La charité. Si, on va voir, on va voir ce qu'il sait faire. Maintenant, il y a eu donc ici une dispute. Je reprends ici le verset Zayin, Vayihi Riv. Il y eut une dispute. En hébreu, pour dire dispute, il y a deux mots différents. On dit soit Riv, soit Meriva. C'est la même racine. Ça vient de la racine Resh Bet. Le mot « rive » veut dire « dispute » et le mot « meriva » veut dire « dispute ». Mais ce sont deux formes différentes de dispute. La dispute qu'on appelle « rive », c'est celle qui se juge au tribunal. Et « meriva », c'est la dispute qui se règle à l'amiable. D'accord ? Sans passer par le tribunal. Mais ça se passe par un compromis. On est copains, on ne va quand même pas se disputer, viens, on partage. Ça veut dire que ça va être tribunal. Par exemple, dans la paracha de Kitetsé, dans le livre de Devarim, qui yiyé rive ben anashim, lorsqu'il y aura un rive entre deux personnes, venigeshu et la mishpat, ils se présenteront au tribunal. Ushfatun, ils seront jugés, veitziku et tzadik, virshu et tarasha. On déclarera acquitte le juste et on déclare et on condamnera le coupable. D'accord ? Donc, c'est ça que je veux dire. Maintenant, s'il y a ici donc une dispute, ça veut dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se rendre où ? Au tribunal. Si c'est Abraham qui a raison, Lot perd la cause. Si c'est Lot qui a raison, c'est Abraham qui perd. D'accord ? Que dit Abraham ? Vayomer Abraham el Lot. Et Abraham dit à Lot, Al-Nati Meriva, Beni ou Venera, qu'il n'y ait pas de Meriva entre toi et moi. C'est-à-dire qu'Abraham a décidé que le conflit n'était pas un conflit juridique, mais un conflit qui se règle à l'amiable. Qui est entre mes bergers et tes bergers, qui anashim achim anachnu, car nous sommes des hommes en parenté, nous sommes des frères. Et puisque nous sommes des frères, ça va se finir par un assassinat. Parce que quand les frères sont en désaccord, ça finit par un meurtre. Vous avez la preuve ? Caïn et Abel. Ça, on a vu que la rivalité entre frères, quand elle éclate, c'est la pire des rivalités. C'est là que ça entraîne la violence. Et Abraham veut éviter la violence. Donc il dit, viens, on s'arrange. Donc il est tombé du côté de la charité et pas de la justice. Pour éviter le conflit. N'est-ce pas ? Bon. Donc tous les problèmes, c'est toujours la faute de Lot. Vayomer Avram, et donc qu'est-ce qu'il dit ? Allô ? C'était donc par communication directe. Allô, kol haaretz lefanecha. Le pays n'est-il pas tout devant toi ? N'est-ce pas ? Tout le pays est devant toi. Pourquoi est-ce qu'il dit tout le pays est devant toi ? Comment est-ce que le pays est devant lui ? Ils sont sur la montagne en question. De cette montagne en question, on voit effectivement tout le pays. Donc c'est physiquement que ça se passe. Physiquement, il dit alors, tu vois, on voit ici tout. Il paraît de Namé Alaï, c'est par toi de moi. Imas Semol Vehemina, si tu vas à gauche, c'est-à-dire au nord, la gauche en hébreu c'est le nord. Vehemina, j'irai à droite, c'est-à-dire au sud. Vehemayamin, si tu vas vers la droite, c'est-à-dire vers le sud. Vehasmiila, j'irai vers le nord. Donc, Abraham propose à Lot un partage territorial. Un partage territorial d'Eretz Israël. La partie du nord et la partie du sud. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils vont rester dans la partie occidentale. C'est-à-dire qu'ils vont du côté ouest, entre le Jourdain et la mer. Mais Lot regarde bien. Vaïssa, Lot et Aïnav. Lot leva les yeux. Il a levé les yeux, c'est-à-dire qu'il a regardé loin. Vayar, et il vit, et kol kikar ayarden, toute la vallée du Jourdain, toute la plaine du Jourdain, qui coula mashke, elle était toute arrosée. Lifne shachet Hashem et Sedom et Amora, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorre, kegan Hashem keret Mitzrayim, comme le jardin de Dieu, comme le pays d'Égypte, boachat Tsoar, en direction de Tsoar. Donc il voit quelque chose de très fertile de l'autre côté du Jourdain. Donc il ne veut pas rester avec Abraham, pas dans sa proximité. Vayifhar lo Lot et kol kikar Yarden. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vayissa Lot mikedem et Lot partit du côté de l'est. Vayiparidu Ishmael achiv, ils se séparèrent l'un de l'autre, l'un de son frère. C'est-à-dire, on sent ici, dans le style employé par la Torah, que la séparation est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple séparation géographique. Ils se séparent dans leur cœur. C'est-à-dire, Lot n'est plus intéressé par l'enseignement d'Abraham, il est intéressé par la richesse de Sodome. Avraham yachav beretz Kenan. Avraham réside dans le pays de Kenan, c'est-à-dire entre le Jourdain et la mer. Velot yachav be'arei Kikar, et Lot s'installe dans les villes de la plaine, c'est-à-dire en Transjordanie. Vaïa la Tsedom, il planta ses tentes jusqu'à Sodome, Vanche Sedom Rahim Khataim Lachem Meod, or les hommes de Sodome étaient méchants et pécheurs envers Dieu beaucoup. Oui? Quoi? Quoi encore?
C'est on a dit si
c'est
au nord,
et finalement il était ni au sud ni au nord, il est allé à l'est. D'accord? Hein? C'est-à-dire qu'il a non seulement il a accepté le partage territorial, mais il y a également un éloignement métaphysique et moral d'Abraham. Et donc, c'est là qu'il va se dégrader. Il arrive à Sodome, qui est un lieu d'hommes méchants et pécheurs envers Dieu, beaucoup. Est-ce que dans cette... Maintenant, j'ai pas très bien compris. La terre était promise à qui ? À Abraham ? Alors comment est-ce qu'il a pu se permettre de la couper en deux ? Hein ? Non, pas du tout. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Si quelqu'un me donne un cadeau, je peux en faire ce que je veux. N'est-ce pas ? Mais quand c'est Dieu qui me donne un cadeau, justement, c'est le contraire. C'est là que je ne peux pas en faire ce que je veux. Parce qu'un cadeau fait par le Créateur, c'est quelque chose qui fait partie intrinsèquement dans ma nature de moi-même. Et donc, en fait, si c'était vraiment comme ça, Abraham n'aurait pas eu le droit de diviser la terre. Alors, je ne sais pas, essayons de voir, est-ce que Dieu a promis la terre à Abraham ou pas? Vous dites que oui. Où est-ce qu'il lui a promis? Regardez au chapitre Yud Bet, au verset Zay. Ah, très bien. Dieu lui dit, les Zaracha et Tenetaretz. À ta descendance, je donnerai le pays. Ce qui veut dire, à ta descendance, c'est pas à toi. C'est-à-dire, de ton vivant, c'est pas encore vraiment à toi, donc tu peux en faire ce que tu veux. N'est-ce pas? Donc Abraham se dit, donc je vais couper. Maintenant, un petit problème. Si j'interroge Abraham, je dis, mais enfin Abraham, c'est vrai que Dieu, il y a ici une lacune juridique. Mais ça veut dire que tes enfants, ils vont devoir faire la guerre contre les enfants de Lot pour reprendre le pays. C'est ça que tu veux? Qu'est-ce que me répondra Abraham? Abraham répondra, hein, le futur n'est pas encore là, dans le présent il y a un conflit, il faut régler ça immédiatement. J'ai une possibilité d'arriver dans l'immédiat à un règlement du conflit, les conséquences plus tardives ne me concernent pas pour l'instant.
Et c'est un bon choix.
Ah, est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'est un mauvais choix? Il y avait un homme politique en Israël, très célèbre, qui s'appelait Louba Eliav. Un des vétérans du Parti travailliste, enfin c'était un monsieur très important, qui était à la tête était un des chefs de ce qu'on appelle l'option gauchiste dans la société israélienne, et qui un jour, à la tête d'une manifestation de Shalom Arshav à Hebron, face aux habitations des Juifs à Hebron, a déclaré, en désignant les maisons des Juifs, il a dit, « Ah, ils se disent les continuateurs d'Abraham, c'est pas vrai ?» Abraham a séparé la terre pour se séparer de Lot, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Ils vont donc contre Abraham. Argument puissant, n'est-ce pas? Bon. Alors voyons un peu ce que dit la Torah. En fait, dans tout cet accord de séparation du territoire, de partage du territoire, Dieu n'est pas intervenu. Vous avez remarqué? Bon. Alors regardons maintenant au verset Yud-Dalet. Vahachem amar el Avraham achare pared Lot meimo, et Dieu a dit à Avraham, après que Lot soit séparé de lui, c'est après l'accord de partage, Sana enecha ore, lève les yeux et regarde, mina makom asher atasham, de l'endroit où tu te trouves. C'est où cet endroit? Toujours Arbal Hatzor, cet endroit d'où on voit tout le pays. Il lui dit, regarde, Tsafona vanegma vakedma vayama, nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire, tu dois regarder tout. Qui est kol haaretz asher ata roé, car tout le pays que tu vois, c'est-à-dire y compris ce que tu as donné à Lot, lecha etnena, c'est à toi que je le donne, ulzaracha adolam, et à ta descendance pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, maintenant c'est la lacune juridique est comblée, et donc Abraham va devoir prendre possession de la partie qu'il a donnée à Lot. Il va donc devoir lui personnellement s'engager dans un conflit armé, plus grand que le conflit local qu'il voulait éviter. Je mettrai ta descendance comme la poussière de la terre, de même qu'on ne peut pas compter la poussière de la terre, on ne pourra pas compter ta descendance. Lève-toi et marche dans le pays. Dans sa longueur et dans sa largeur. Car c'est à toi que je vais le donner. Vaya l'Avram, et Avram planta ses tentes, Vayavo, Vayeshev Beloné Mamré, et vint s'installer dans la plaine de Mamré, à Sherbe Hevron, qui est à Hevron. Et il va plus vers le sud, puisque Dieu lui a dit de se déplacer. Vayiven Shamisbeach Lachem, il construisit là-bas un hôtel pour Dieu. Donc on voit qu'Avraham va devoir entreprendre une marche qui va l'amener à faire la guerre. Et cette guerre va être plus grande que ce qu'il voulait éviter. Et on va voir que cette guerre aurait pu être évitée s'il n'y avait pas eu le partage. Et c'est le récit du chapitre Yud-Dalet, dans lequel on va voir comment est-ce qu'Abraham est confronté à la guerre. Il aurait dû faire la justice.
Mais comment il aurait fait?
Eh bien, il aurait été au tribunal.
Il y avait des tribunaux
aussi? Ben, il aurait été voir Shem, par exemple, l'ancêtre des Sémites, ou chez Ever. C'est-à-dire, les choses sont... Ça, c'est déjà un problème, disons, technique. Mais c'est la valeur qu'Abraham aurait dû défendre, c'est la valeur de la justice. Bon, on va voir ça la prochaine fois. Shalom.